Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escute Israël.
Monseigneur Marc Ayé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron.
Monseigneur Ayé, bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs de Radio La Pourdi Ratia et de Radio Présence Lourde Pyrénées. Bonjour Olivier Drapé.
Bonjour.
Vous êtes délégué épiscopal à l'information et à la communication. Alors aujourd'hui, c'est un entretien un peu particulier puisque nous allons le consacrer intégralement cet entretien au 10e anniversaire de votre ordination épiscopale puisque vous avez été ordonné évêque de Bayonne, Escar et Oloron il y a tout juste 10 ans. Vous êtes né le 17 avril 1957 à Parakou au Bénin. Dans votre enfance et surtout dans votre adolescence, vous avez été marqué par le mouvement scout, les scouts d'Europe. Vous avez été ensuite au séminaire de Gênes en Italie avec la communauté Saint-Martin. Vous avez obtenu une licence et un doctorat canonique de théologie à l'Université catholique de Fribourg. Vous avez été ordonné prêtre le 3 juillet 1982, c'est bien ça ?
C'est bien ça.
En Italie, au sein de la communauté Saint-Martin. Et ensuite, vous avez exercé votre ministère dans le diocèse de Fréjus-Toulon. Vous avez, je crois, ouvert une école de théologie pour la communauté Saint-Martin.
Absolument, en 1993, à Condé-sur-Beuvron, dans le diocèse de Blois.
Et vous êtes devenu recteur de la maison de formation à Gênes, d'abord en Italie, puis à Condé-sur-Beuvron, dans le diocèse de Blois.
Voilà.
Vous avez été curé des paroisses de Saint-Raphaël de 1998 à 2005. Et en 2002, Monseigneur Ré, l'évêque du diocèse de Fréjus-Toulon, vous a appelé à devenir vicaire général pour ce diocèse. Et le 15 octobre 2008, vous avez été nommé par le pape Benoît XVI, évêque de Bayonne, Escar et Oloron. Vous succédiez ainsi à Monseigneur Pierre Moller, qui avait passé 22 ans à la tête du diocèse de Bayonne, Escar et Oloron. Et vous avez été consacré évêque le 30 novembre 2008 à la cathédrale de Bayonne. Cette célébration était présidée par Monseigneur Jean-Pierre Ricard, assisté de Monseigneur Dominique Ré et de Monseigneur Pierre Moller. Et beaucoup se souviennent que ce jour-là, il avait énormément plu. Vous vous en souvenez, je pense, et vous nous le direz certainement. C'était donc le 30 novembre 2018. Nous nous retrouvons juste après quelques extraits de votre messe d'ordination épiscopale à la cathédrale de Bayonne.
Marc, tu t'en rendras vite compte. On attend aujourd'hui beaucoup de l'évêque, parfois trop. La tâche à certains jours peut paraître lourde, l'avenir incertain, la communion crucifiante. On peut se poser la question en disant, mais est-ce que la mission n'est pas au-dessus de nos forces ? Si un jour ces sentiments te viennent, n'oublie pas alors que dans chaque ordination, dans ton ordination, le Seigneur s'engage. Le Seigneur s'engage toujours à nous donner la force de faire face à la mission qu'il nous confie. Combien de fois n'ai-je pas expérimenté moi-même la vérité de cet engagement du Seigneur ? On n'est pas seul.
Saint Pierre et Saint Paul,
priez pour nous.
Saint André et Saint Jean,
priez pour nous.
Saint Jacques et Saint Thomas,
priez pour nous.
Saint Jacques et Saint Philippe,
priez pour nous.
Barthélemy et Saint Matthieu,
priez pour nous.
Saint Simon,
priez pour nous.
Je viens donc à vous façonné par mon histoire et j'assume mon histoire. Mais j'ai conscience aujourd'hui qu'il me faut d'une manière nouvelle quitter mon père et ma mère, c'est-à-dire ma famille, ma communauté, mon diocèse de Fréjus-Toulon, pour m'attacher à l'église particulière de Bayonne, Lescar et Oloron, et ne plus faire avec elle qu'un seul cœur et qu'une seule âme sans regarder en arrière. J'ai conscience qu'une alliance de type nuptial a été scellée aujourd'hui par mon ordination épiscopale avec ce diocèse qui m'est confié par le Saint-Père. Je mesure d'autant mieux la valeur du célibat sacerdotal que l'on reçoit dans l'Église latine par un engagement libre et mûrement réfléchi, comme un véritable charisme que je veux vivre en plénitude avec vous, chers frères prêtres, car il est la condition même de la fécondité du don généreux et fidèle de nous-mêmes au service du peuple de Dieu. Charisme qu'on ne saurait vivre sans humilité et sans une proximité toujours renouvelée avec le Christ. Je viens avec mon histoire dans un diocèse qui a son histoire, si riche, et que je suis tout à la joie de découvrir pour l'habiter pleinement. Aussi, je ne viens pas à vous avec un programme prédéfini, ni avec des idées toutes faites. J'ose même faire mienne aujourd'hui, au début de mon ministère épiscopal, ces paroles si lumineuses du pape Benoît XVI, inaugurant son service pétrinien à Rome. Je cite « Mon véritable programme de gouvernement est de ne pas faire ma volonté, de ne pas poursuivre mes idées, mais avec toute l'Église, de me mettre à l'écoute de la parole et de la volonté du Seigneur, et de me laisser guider par lui, de manière que ce soit lui-même qui guide l'Église en cette heure de notre histoire. »
Extrêmement monseigneur Raillé, de votre ordination épiscopale, c'était il y a donc 10 ans, le 30 novembre 2008. Alors vous, qu'est-ce que vous avez gardé comme souvenir de cette journée ?
C'est sûr que le premier souvenir que j'ai gardé, comme nous tous, c'est la tempête. Il a plu des cordes, et je crois bien d'ailleurs que depuis que je suis à Bayonne, c'est-à-dire depuis 10 ans, je n'ai pas connu de telle bourrasque que ce jour de mon ordination, et je pense en particulier à ceux qui étaient dans le cloître pour assister à cette célébration.
Vous pensez que c'est un signe du ciel ?
Ah, je ne sais pas, non, je ne l'interprète pas. Ça peut être une pluie de bénédiction. Ça peut être aussi une tempête qui pouvait avoir une dimension prophétique par rapport à certaines difficultés que j'ai pu rencontrer, auxquelles j'ai pu me heurter tout au long de ces 10 années. Bon, après, évidemment que ce serait beaucoup plus profond, ce qui me reste, c'est effectivement cette impression, plus qu'une impression, mais cette conviction à travers cette ordination, malgré mon indignité, mes limites et ma fragilité dont j'ai pu déjà faire l'expérience bien avant mon ordination épiscopale, la conviction que mon ordination et ma consécration épiscopale est un choix de Dieu et non pas le fruit d'une volonté humaine, que ce soit la mienne ou que ce soit celle des hommes. Je l'ai senti peut-être plus particulièrement pendant ce moment très privilégié de l'ordination, c'est vrai pour l'ordination diaconale comme pour l'ordination sacerdotale, de la prostration pendant la litanie des saints dont nous avons entendu un petit extrait. On a l'impression qu'on est enveloppé dans la prière d'une communauté nombreuse qui nous entoure, de vivants, mais aussi de tous les saints du ciel, et en même temps on est tout seul, l'objet de ce choix de Dieu qui veut faire de nous un successeur des apôtres et qui veut faire de nous un apôtre. Voilà. Et il me revient sans cesse en mémoire cette parole de saint Paul qui commence l'épître aux Romains, et on retrouve d'ailleurs des termes semblables dans toutes les introductions de ces épîtres. Paul, serviteur du Christ Jésus, apôtre par vocation, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Et je crois que cette phrase m'a habité dès que j'ai été avant même que je sois nommé officiellement évêque, mais pendant tout ce temps où j'avais été nommé officieusement par le nonce, et ça m'habitait, j'avais même écrit dans la revue diocésaine de Fréjus-Toulon, « Marc, serviteur du Christ Jésus, apôtre par vocation, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. »
Votre devise épiscopale, « Écoute Israël ».
Écoute Israël, Aoudi Israël, voilà, pour me rappeler que le premier commandement que Dieu donne à son peuple, et que Jésus assume lui-même dans l'Évangile, c'est d'écouter la parole de Dieu. Hein. Mon premier commandement, le voici. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est à la fois pour dire que notre programme pastoral naît de l'écoute de la parole de Dieu, lui en Église, parce que l'Église médite cette parole de Dieu depuis 2000 ans, et en même temps qui centre toute la mission de l'évêque sur ce qui fait le cœur de la vie chrétienne, c'est-à-dire Dieu lui-même, hein, ton Dieu l'unique Seigneur.
Il y a 10 ans, vous êtes senti bien accueilli par les Béarnais et les Basques?
Je crois que oui, et je crois qu'au bout de 10 ans, malgré les difficultés que j'ai pu rencontrer, encore une fois, dont on aura peut-être l'occasion de parler, je crois que d'une manière très générale, je me suis toujours senti bien accueilli. Et je me sens toujours bien accueilli quand je rencontre une communauté paroissiale. Et Dieu sait, si j'arpente le diocèse toujours, au bout de ces 10 ans, j'ai quand même beaucoup arpenté, rencontré beaucoup d'assemblées paroissiales, en particulier dans la liturgie, je me suis en effet toujours senti bien accueilli.
Monseigneur Ayet, il n'est peut-être pas facile de répondre à cette question, mais peut-on vous demander quels ont été, avec le recul que vous avez aujourd'hui, les moments forts ou les événements qui vous ont le plus marqué tout au long de ces 10 années d'épiscopat?
C'est difficile parce qu'il y a beaucoup de choses. Et de fait, je me rends compte que la vie d'un évêque est assez intense et trépidante en événements qui se suivent à un rythme assez accéléré et qui ne se ressemblent pas. Mais quand même, je voudrais la noter que parmi les événements les plus importants de mon épiscopat, qui m'ont apporté le plus de consolation, j'ai dit pas forcément dans l'ordre, il y a les visites pastorales. C'est vrai que de passer 5 jours par mois dans une paroisse, pour moi, a toujours été une très riche aventure. Donc c'est la rencontre avec les réalités de nos communautés paroissiales, prêtres et laïcs engagés dans la mission. Évidemment, c'est aussi l'ouverture du séminaire. C'est la joie d'avoir pu ordonner 14 prêtres, ce qui est quand même pour un évêque très consolant quand je rencontre beaucoup de mes confrères qui n'ont pas eu d'ordination pendant 10 ou 15 ans de ministère épiscopal. C'est la béatification, évidemment, dont on aura peut-être l'occasion de reparler, de Louis-Édouard Sestac, quand même, c'est un grand événement dans la vie d'un diocèse. Et puis c'est toutes ces collaborations étroites avec tant de personnes qui m'assistent dans mon ministère épiscopal.
Alors, Monseigneur Marc Ayet, parlons, vous l'avez évoqué dans les points importants, selon vous, de votre épiscopat, c'était une des premières décisions, finalement, que vous avez prises, ça a été de réouvrir le séminaire.
Alors ça, c'est sûr que ça vient certainement de mon histoire. J'appartiens, comme vous le savez, j'appartenais à la côté Saint-Martin, où j'ai grandi, où j'ai été formé, où j'ai exercé l'essentiel de mon ministère sacerdotal, en particulier au service de la formation sacerdotale. J'ai toujours eu donc le souci des vocations. Quand j'étais au milieu de lycée, pour moi c'était très important, et 5 jeunes de mon groupe sont rentrés au séminaire, ou bien à la communauté Saint-Martin, ou bien au séminaire diocésain. D'ailleurs, j'ai tout de suite après ma nomination comme aumônier de lycée, un an après, Monsieur Madec, qui était l'évêque de Toulon à ce moment-là, m'a demandé d'être directeur spirituel et professeur au séminaire pour lequel je m'étais un peu préparé par mes études de théologie. Ensuite, j'ai été le recteur de la maison de formation de la communauté Saint-Martin, donc ça a toujours été très, très sensible pour moi. Et quand je suis arrivé dans le diocèse, que je connaissais la riche histoire vocationnelle de ce diocèse qui a donné tant et tant et tant de prêtres jusqu'à une époque encore assez récente, c'est vrai que j'ai été un peu touché de voir qu'il y avait un diacre et un séminariste. Je me souviens descendant au réfectoire de la maison diocésaine pour le déjeuner qui précédait l'ordination avec Monseigneur Joseph Madec, qui était âgé à l'époque et qui avait tenu à être à mon ordination. Et je lui dis, vous voyez, ce bâtiment à gauche, là, c'était là qu'était le séminaire qui a fermé en 2005. Il s'est arrêté, il m'a dit, vous le rouvrirez, n'est-ce pas? Bon, est-ce que cette parole a résonné comme une prophétie en moi? C'est probable. Je me souviens d'ailleurs avoir vu cette couronne de séminaristes assez nombreux qui avaient assisté à mon ordination, venant de Toulon et d'ailleurs, et d'avoir dit, bah, quand je vois cette couronne, je me prends à rêver, à moins que ce ne soit une prophétie.
On continuera à parler du séminaire et des vocations dans l'Église juste après cette pause. Le 30 novembre 2008, il y a 10 ans, Mgr Marc Haillé était ordonné évêque de Bayonne, Escar et Oloron en la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne. Ce dimanche 2 décembre, sur notre antenne, nous vous proposons de vous unir à la messe d'action de grâce de Mgr Marc Haillé pour ses 10 ans d'épiscopat. Rendez-vous ce dimanche 2 décembre à partir de 16h pour cette messe en direct de la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne. Monseigneur Marc Haillé, vous venez d'évoquer la réouverture du séminaire. Vous avez réouvert en 2009 une propédeutique, c'est ça?
C'est ça. En fait, je me suis dit comment s'y prendre. La première chose que j'ai voulu faire, c'est pas d'abord d'ouvrir le séminaire, c'est d'ouvrir des chapelles d'adoration. Je me souvenais en effet que le cardinal Piacenza, qui était alors préfet de la Congrégation pour le clergé, avait adressé à tous les évêques du monde entier en 2007, dont je le savais parce que j'étais proche d'un évêque, j'étais vicaire général à l'époque, et en leur demandant d'ouvrir au moins une chapelle d'adoration perpétuelle dans leur diocèse pour obtenir du Seigneur de sainte vocation sacerdotale. Alors je lui dis, voilà, on va faire ça. Donc il y a eu cette ouverture, un peu au galop, comme beaucoup de choses que j'ai faites, je reconnais, à l'époque, de ces deux chapelles d'adoration perpétuelle qui ont tout de suite rencontré une vraie réponse de la part des fidèles. Et après, donc, j'ai parlé au cardinal Ricard, et je lui dis mon souhait d'ouvrir une propédeutique, sachant que dans la province, d'ailleurs, il n'y avait pas de propédeutique. Il m'a dit, écoute, tu es un nouvel évêque, tu es dans la grâce des commencements, t'as raison, il faut y aller. Bon. Donc j'ai ouvert cette propédeutique avec 7 jeunes, 5 finalement au bout de quelques mois ça s'est stabilisé, sont restés, et sur les 5, il y en a 4 qui sont aujourd'hui, 3 qui sont prêtres, un qui est marié et un autre qui cherche encore sa voie. Voilà. Donc ça a été la première aventure, et puis ce qui a permis l'année suivante d'ouvrir la première année de séminaire, le cardinal m'ayant dit aussi au cours de cette année, alors qu'est-ce que tu fais l'année prochaine avec ces jeunes, tu continues? J'ai dit oui, je pense que je continue. Étant donné la particularité un peu de ce sud de la province de Bordeaux, qui est le diocèse de Bayonne.
Un séminaire, on pourrait dire, entre guillemets, à maison, dans le sens où il était à la maison Saint-Amand, c'était vraiment...
Oui, tout à fait, une petite communauté embryonnaire. Mais moi, j'avais pas peur de ça, parce que j'ai été un des premiers de la communauté Saint-Martin, et nous étions 5. Et on est resté assez longtemps dans des petits effectifs. Aujourd'hui, ils sont 130 séminaristes, c'est autre chose. Mais voilà, donc ça ne me faisait pas peur d'avoir une petite équipe rapprochée en disant, on verra ce que le Seigneur veut faire.
Vous avez vous-même dit que vous avez ordonné 14 prêtres depuis 10 ans, ici dans le diocèse de Bayonne-Escar et Oloron. Est-ce que vos confrères évêques vous envient?
Oh, je ne sais pas. Je ne crois pas en avoir jamais parlé, avoir senti chez eux ce genre de sentiment.
Alors, forcément, la pastorale des vocations est au cœur de votre épiscopat. C'est une de vos priorités. Vous l'aviez d'ailleurs dit dès votre allocution à la fin de votre messe d'ordination le 30 novembre 2008.
Oui, pour moi, c'est toujours une priorité. Je l'ai souvent dit, je le répète ici. La première expression de la charité pastorale de Jésus dans l'Évangile, c'est cette fameuse compassion, d'après l'évangéliste, qu'il éprouve à la vue des foules qui étaient comme des brebis lasses et prostrées, qui n'ont pas de berger. Et donc il dit à ses disciples, la moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Et joignant le geste à la parole, il prie lui-même toute une nuit sur la montagne, et au lendemain les disciples viennent à lui, et la réponse du Père ne se fait pas attendre, il institue les 12 premiers, les 12 apôtres. Donc pour moi c'est la première charité pastorale de l'évêque que de donner ses prêtres à son peuple.
Monseigneur, la question des vocations que nous venons d'évoquer, en parlant de la propédeutique et du séminaire, n'est pas sans rapport avec une autre problématique, la pastorale des jeunes, qui a toujours été pour vous, je crois, une préoccupation et même peut-être une priorité.
Oui, j'ai toujours voulu en faire une priorité. Je pense que c'est une chose assez commune dans nos diocèses et dans le cœur des évêques, parce que, comme disait Jean-Paul II, qui était, on peut dire, l'apôtre de la jeunesse par excellence, pendant 27 ans, qui nous ont marqués, évidemment, hein, dans notre génération, les jeunes sont l'espérance et l'avenir de l'Église. Ils sont pas seulement l'avenir, ils sont aussi le présent, mais ils sont l'espérance de l'Église par définition, parce que l'Église n'existe que pour transmettre l'Évangile et transmettre la foi de génération en génération. C'est la raison pour laquelle nous sommes, nous, chrétiens, et redevables de toutes ces générations qui nous ont transmis la foi, et dès le plus jeune âge, et en particulier à l'âge de la construction d'une personnalité humaine, à l'âge où on se projette dans l'avenir, à l'âge où on fait des projets, c'est-à-dire quand on est jeune. Et j'étais très très marqué pendant ces années, évidemment, par les Journées mondiales de la jeunesse, auxquelles j'ai participé, auxquelles j'étais heureux de conduire des contingents parfois importants de notre diocèse, et je sais que on a restructuré la pastorale de la jeunesse dans notre diocèse avec deux prêtres, hein, que j'ai nommés, je crois, en 2009, au moment où nous nous préparions à vivre les premières JMJ de mon épiscopat, les JMJ de Madrid, hein, où nous avons quand même accueilli, comme diocèse d'accueil, c'était une prouesse, parce qu'on n'était pas espagnol, 1200 jeunes qui venaient de 11 nationalités différentes. Et donc avec Jean-Paul Martinon et avec Dominique Nalis, qui ont été les deux pionniers un peu pendant mon épiscopat, évidemment, parce que la pastorale des jeunes existait avant, mais de cette pastorale des jeunes renouvelée. Et donc il y a eu des événements, des temps forts, qui ont été vraiment féconds. Je pense à ces JMJ de Madrid de 2011. Aujourd'hui, parmi les jeunes qui étaient très engagés dans ces JMJ, il y en a qui sont au séminaire, il y en a qui sont mariés, il y en a qui sont à l'âge bébé, il y en a qui ont pris des engagements dans l'Église. Il y en a une qui est responsable du parcours Cléophas. Enfin bon, vous voyez, il y a des fruits comme ça, tangibles, et qui ne peuvent que nous encourager.
Alors, Monseigneur Hayé, une grande part de vos 10 ans d'épiscopat, vous l'avez consacré à visiter les paroisses du diocèse, ce sont les visites pastorales. Est-ce qu'il y a des souvenirs particuliers que vous souhaiteriez nous faire partager par rapport à ces visites, que vous appeliez des visitations d'ailleurs?
C'est ça, oui, pour moi c'était la visite pastorale, c'est une visitation, c'était pas une inspection. Je n'étais pas un général en chef qui passait en revue ses troupes. C'était une sorte de visitation du pasteur qui vient à la rencontre des communautés, prendre la mesure des réalités vécues sur le terrain par les prêtres et les laïcs, qui sont pas toujours faciles aujourd'hui, comme on le sait, aussi une manière de reconnaissance, pas seulement comme on fait une reconnaissance de lieu, mais de reconnaissance pour exprimer la reconnaissance, hein, de l'évêque pour tous ces agents pastoraux, hein, qui animent nos communautés paroissiales. Alors, j'ai 36 000 sans doute souvenirs qui se percutent dans ma tête là en ce moment, parce que les moments les plus magnifiques de ces rencontres, c'est souvent la rencontre des enfants du catéchisme, les visites d'exploitation agricole, de rencontres très conviviales avec les acteurs de la paroisse, le conseil pastoral, les tous ceux qui font quelque chose. Enfin bon, et puis les célébrations. Hein, les célébrations de conclusion, le dimanche généralement de ces visites, qui sont des moments de louange, des moments d'action de grâce et des moments de joie pour le peuple chrétien, comme pour l'évêque qui vient les visiter, qui sont toujours gravés dans mon cœur et ma mémoire.
Est-ce que vous avez gardé des liens avec des personnes que vous avez rencontrées, que vous ne connaissiez pas et que vous avez rencontrées lors de ces visites pastorales?
Alors ça, c'est sûr, quand je les rencontre à nouveau, moi, je me souviens d'eux. Et souvent, hein, quand il y a eu un petit contact un peu plus important, je les retrouve, et puis souvent je les vois aussi dans les ils sont souvent en responsabilité, hein. Mais oui, c'est vrai que j'ai la grâce d'avoir de la mémoire, et je veux dire la mémoire des personnes. des visages et des personnes, pas toujours des noms, mais souvent quand même, mais de me rappeler vraiment personnellement les rencontres que j'ai eues. Quand j'ai une rencontre avec quelqu'un, une conversation même, je peux retrouver cette personne 3 ans plus tard dans la paroisse que je visite pour une autre raison, et paf, je me rappelle la conversation et on continue notre conversation. Et c'est une joie pour moi.
Ce n'est un secret pour personne que vous aimez communiquer. Vous vous adressez bien souvent sur les ondes des radios chrétiennes à vos fidèles, etc. Vous avez adressé 3 lettres pastorales pendant votre épiscopat. Vous avez écrit 3 lettres pastorales. Un mot peut-être
sur ces... Un peu plus encore peut-être. La première grande lettre pastorale qui reste un peu la lettre programme. Donc le Christ, la charité du Christ nous presse l'urgence de la mission. Ensuite, il y a eu convertissez-vous et croyez en l'Évangile. C'était au moment de la transition des deux pontificats qui ont marqué mon épiscopat, donc Benoît XVI, qui m'a nommé, qui venait de remettre sa charge, et puis le pape François, qui venait à peine d'arriver, puisqu'elle date d'avril, je crois, 2013, cette lettre pastorale. Ensuite, j'ai écrit une lettre pastorale pour la...
Pontification.
D'abord pour la consécration du diocèse aux deux cœurs unis de Jésus et de Marie. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, et pour le carême 2014. Et puis, j'ai écrit aussi une lettre pastorale en vue de la béatification.
Donc, ça fait 4.
Donc, ça fait 4.
Vous avez un retour sur ces écrits? Est-ce que des diocésains vous ont réagi ou...
Oui, je pense qu'il y a eu des réactions en son temps, peut-être plus pour la première lettre pastorale, qui a été bien accueilli, parce que je vois tous les... Quand je l'ai présenté, je suis allé la présenter généralement dans des diverses réunions, et on m'a demandé des dédicaces, donc pas mal, je crois. Bien sûr qu'il y a eu aussi des réactions qui m'ont été exprimées au cours des conseils presbytéraux, ou parfois, je me souviens aussi, lors des vœux au clergé, qui ne comprenaient pas toujours ce langage, car j'apportais aussi dans cette pastorale non pas un programme qui m'était propre, comme je l'avais dit d'ailleurs au jour de mon ordination, et ça a été rappelé, pas des idées ou une volonté propre, mais j'essayais de monnayer comme... j'allais dire comme orientation principale de mon épiscopat, ces grandes orientations de l'Église universelle, en particulier par rapport à la nouvelle évangélisation, un mot dont j'ai compris qu'il n'était pas toujours bien reçu dans notre diocèse, en particulier dans le clergé, et j'ai essayé, peut-être avec mon manque de pédagogie, mais j'ai essayé de le monnayer, et je vois que notre pape François met le turbo par rapport à tout ça, donc je me sens parfaitement en phase.
Nous balayons les 10 ans de votre épiscopat, Monseigneur Marc Caillé, nous retrouvons dans un court instant. Radio La Pourdi, Iratia, 96.8 à Bayonne, 96.9 à Saint-Palais, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Monseigneur Caillé, vous vous êtes en tant qu'évêque fermement engagé depuis 10 ans, en faveur du respect de la vie et de la famille, à contre-courant bien souvent. Je pense en particulier à la mise en place, dès votre arrivée, ou très peu de temps après votre installation, de l'Académie diocésaine pour la vie. Je pense au colloque international pour la vie de Biarritz, en 2012, ainsi que à de nombreuses déclarations ou prises de position sur l'avortement, le mariage pour tous, la bioéthique, etc., que certains vous ont d'ailleurs parfois reproché.
Alors, c'est sûr que quand je suis arrivé à Bayonne, en 2008, on préparait déjà la révision des lois de bioéthique. Vous voyez, on est, l'actualité nous rattrape encore aujourd'hui. Et c'est une des réalités, la défense de la vie et de la famille, qui a toujours touché aussi mon ministère sacerdotal. J'ai d'abord connu personnellement le professeur Jérôme Lejeune, dont le fils était rentré, et toujours d'ailleurs, à la communauté Saint-Martin. Et j'avais été très sensible au témoignage chrétien de ce savant, qui aurait pu avoir une carrière encore plus brillante et même décrocher un prix Nobel, et qui lui a été refusé de fait parce qu'il a choisi non pas sa carrière, mais la défense du plus petit. Il était médecin au service des personnes trisomiques, dont il a été quasiment le père, à travers sa sollicitude. Et donc, j'ai été très touché par cette question de la vie, dès sa conception jusqu'à sa mort naturelle. Sans être un militant, d'ailleurs, pour autant, j'ai pas milité dans aucune association pro-vie jusqu'à devenir prêtre et après. Et donc, j'ai été attentif aussi à l'action de la famille, non seulement parce que je fais partie d'une famille chrétienne qui est nombreuse, mais je me suis occupé de la pastorale familiale en tant que vicaire général aussi du diocèse de Fréjus-Toulon. Et je me souviens, d'ailleurs, je l'ai réécouté, et j'en ai fait d'ailleurs la trame d'une lettre pastorale que je vais adresser à l'occasion de mon 10e anniversaire d'épiscopat, dans les jours qui viennent. J'ai relu aussi cette homélie du cardinal Ricard, qui m'avait marqué en son temps, et que j'ai relu et que j'ai médité pendant plusieurs jours, là. Et j'en ai fait la trame de cette lettre pastorale. Et en particulier, à un moment, il dit ceci, je le cite, « L'évêque est ce guetteur qui doit éclairer son peuple. » Et il cite Ézéchiel, « Fils d'homme, je t'ai fait guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. » Et il ajoutait, « Il est du devoir de l'évêque d'alerter son peuple, ses contemporains, sur les dérives possibles d'une société qui ne respecterait pas la dignité de tout être humain ou qui tolérerait en son sein des toxines qui risqueraient de lui être fatales. Si les évêques interviennent dans le domaine social ou politique, ce n'est pas pour faire de la politique, comme le dit le langage courant, mais c'est pour être fidèle à un message qui concerne le destin de tout homme et de toute société. » Fermez la fin de citation. Donc, en retrouvant ça, je me suis dit, je me suis bien retrouvé là. Et je pense que l'évêque doit être en effet un guetteur. Il n'est pas là pour gagner des batailles de mots ou d'idées, comme j'ai pu le dire aussi une fois. Il n'est pas là pour gagner une bataille politique, parce qu'il ne fait pas de la politique au sens politicien du terme, mais il est là pour parler à la conscience des gens. Quand la dignité de la personne humaine est menacée, et l'Église, qui se situe toujours du côté de la conscience, essaie de rejoindre la conscience des gens. Dans la conscience, il y a une étincelle de l'âme, comme disent les pères de l'Église, scintilla animée, qui, même si elle est parfois étouffée dans une gangue culturelle due à l'éducation, au contexte sociologique dans lequel nous sommes insérés, eh bien, est toujours là, vivante, pour avoir l'intuition de ce qui est bien, de ce qui est mal. Et quand la conscience est oblitérée, il est nécessaire de la réveiller. Et je crois que ça fait partie de la mission prophétique de l'Église, et en particulier dans ces questions si sensibles de la vie, de la famille, du mariage, de la dignité de la personne humaine, depuis sa conception jusqu'à sa mort naturelle.
C'est la raison pour laquelle, Monseigneur, vous avez toujours souligné, je crois, l'importance de la pastorale familiale, au même titre que la pastorale des jeunes dont nous parlions tout à l'heure, et que vous avez toujours encouragé précisément les activités de la pastorale familiale.
Oui, parce que la famille est la première cellule de la société, ça c'est certain. Dans une société qui est profondément marquée par une culture individualiste, où la famille est très éclatée, où toutes sortes d'ailleurs de modèles familiaux se font jour et qui ne sont pas conformes, même s'il ne s'agit pas de juger et de condamner, entendons-nous bien, avec le dessein créateur de Dieu dont nous sommes, nous, appelés à être les interprètes au premier chef, pour reprendre l'expression de Jean-Paul II, pour le bien de l'homme, hein, et pour le bien de la famille humaine. Et la famille est aussi la première église, on pourrait dire. C'est l'église domestique, selon la belle expression des pères de l'Église, qui a été valorisée par le Concile Vatican II, qui est le premier lieu de la structuration humaine, mais aussi de l'initiation chrétienne, et donc de la transmission de la vie, mais aussi de la transmission de la foi. Et le pape, d'ailleurs, nous l'a rappelé de manière admirable, après ces deux synodes qu'il a voulu consacrer à cette question, dans son exhortation apostolique, la joie de l'amour, hein, où il montre que le fil conducteur de la pastorale familiale, ou de la famille, c'est l'amour véritable, hein, que l'on ne peut atteindre qu'à travers des chemins de croissance, moyennant d'ailleurs le secours de la grâce, comme il le dit souvent, et qui doivent commander une pastorale familiale attentive, justement, à accompagner ces processus de croissance, en particulier dans la préparation de ces grands mariages, dans l'accompagnement des premières années de mariage, et de manière plus générale des couples et des familles, et aussi bien d'accompagner, d'intégrer avec discernement les situations difficiles fossiles qui sont générés par la société bousculée dans laquelle nous sommes.
Votre épiscopat, c'est le moins qu'on puisse dire, n'a pas été un long fleuve tranquille. On vient d'évoquer les questions bioéthiques. Certaines fois, il y a eu quand même pas mal d'incompréhension, à la fois des personnes extérieures à l'Église, mais aussi de chrétiens qui font partie de l'Église, notamment de l'Église diocésaine. Vous, comment vous avez vécu ces périodes où c'était tendu, il faut le dire?
Alors, je me suis toujours mis, comment dire, intérieurement à distance, même si ça n'y a pas été insensible, bien sûr, hein. Mais parce que, au fond, je me suis dit, la mission du prophète, des prophètes, la mission du Christ, dans la pure ligne de la tradition prophétique d'Israël, n'a pas été un long fleuve tranquille, comme on le sait, hein. Jésus a été profondément clivant par l'annonce de l'Évangile, et si ça avait été un long fleuve tranquille, il n'aurait pas terminé sur la croix, par un témoignage rendu à la vérité qui était qui l'a conduit à offrir sa vie en sacrifice. D'ailleurs, je suis très sensible, comme je le dis dans ma lettre pastorale qui va sortir, aux dates, aux événements que le Seigneur conduit par sa providence et qui disent quelque chose de notre histoire, en tout cas de l'histoire que Dieu fait avec nous. Et je m'accorde sur le fait que le jour où j'étais convoqué par le nonce pour m'annoncer que le pape m'avait nommé évêque de Bayonne et pour lui donner mon assentiment, je m'en suis aperçu qu'après d'ailleurs, parce que c'est parfaitement fortuit, c'était le 29 août. Et le 29 août, c'est la fête du martyr de Saint Jean-Baptiste, qui n'a pas été, quant à lui, martyrisé pour le Christ, d'une certaine manière explicitement, mais pour la vérité. Hein, vous savez comment il avait reproché à Hérode d'être avec la femme de son frère qui n'était pas sa femme. Ça lui a valu la tête tranchée. Je ne me mets pas du tout au niveau de Jean-Baptiste et je ne parle pas d'un martyr, mais je pense que ça fait partie quand même. Le cardinal Ricard, dans son homélie pour notre visite ad limina en 2012, seule visite ad limina que j'ai faite, mais qui a marqué aussi mon épiscopat, une des dernières de Benoît XVI, qui remettait sa charge quelques mois plus tard, nous avait dit que l'annonce de l'Évangile n'est pas une simple et joyeuse campagne de communication, mais c'est un temps spirituel, un temps d'épreuve, un combat spirituel, où il faut s'attendre à prendre des coups. Il parlait du martyr du sang, celui de Pierre et Paul, nous étions dans la crypte de la Vatican, mais il y a aussi le martyr devant l'opinion publique, le martyr médiatique et le martyr du service de la communion dans une église traversée par des tensions redoutables. Je me suis souvent rappelé ça. Mais je ne m'exempte pas d'erreur. Hein.
Par exemple, parlons juste, vos tweets ont fait beaucoup réagir, vous ne tweetez pratiquement plus.
Non, c'est vrai. Peut-être que j'ai ajouté, après ces expériences pas toujours heureuses, même si j'assume, hein, un 11e commandement, tu ne tweeteras pas.
Le 30 novembre 2008, il y a 10 ans, Mgr Marc Haillé était ordonné évêque de Bayonne, Escar et Oloron en la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne. Ce dimanche 2 décembre, sur notre antenne, nous vous proposons de vous unir à la messe d'action de grâce de Mgr Marc Haillé pour ses 10 ans d'épiscopat. Rendez-vous ce dimanche 2 décembre à partir de 16h pour cette messe en direct de la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne. Nous retrouvons Mgr Marc Haillé. Alors, Mgr Haillé, vous l'avez évoqué tout à l'heure, un grand moment de votre épiscopat était la béatification du père Louis-Édouard Sestac, qu'on ne peut pas non plus couper de la canonisation de sœur Mariam.
Oui, sœur Mariam de Jésus crucifié, petite palestinienne, qui a échoué, si je puis dire, au Carmel de Pau, et qu'elle appelait son Carmel paternel, sa maison paternelle d'ailleurs. Et d'où elle est partie pour fonder et construire même le Carmel de Bethléem et où elle est morte prématurément dans les travaux. Oui, Sainte Mariam de Jésus crucifié, qui est dans la mémoire de notre diocèse, bien sûr, par le Carmel de Pau, mémoire qui est entretenue et aussi sa dévotion par les pères de Bétharram qui occupent désormais le Carmel Saint-Michel de Pau. et qui a été canonisé le 17 mai 2015. Alors sans doute ça nous marque, un peu moins quand même que Louis de Wenceslas, parce que cette canonisation a eu lieu à Rome, et que nous, c'est un enfant du pays, Louis de Wenceslas, un Bayonnais, prêtre à la cathédrale, comme vicaire pendant de nombreuses années, qui a fondé les Servantes de Marie, et qui avait été très attentif au sort des petites orphelines et des prostituées, laissées pour compte, pourrait-on dire, de la révolution industrielle.
Vous avez un bon souvenir de cette journée du 31 mai 2015.
Oui.
Tout le diocèse était rassemblé au pied de la cathédrale de Bayonne.
Oui, c'était magnifique. Le cardinal Amato, qui était alors le préfet de la Congrégation pour la cause des saints, et qui donc était légat du pape pour présider cette béatification dans notre cathédrale. Donc c'est rapprocher la célébration, comme l'avait voulu Benoît XVI d'ailleurs pour les béatifications, les saints qui sont les modèles, les intercesseurs de notre diocèse.
Il y a eu aussi les grands rassemblements diocésains, diocésains fêtes, qui selon les années ont plus ou moins bien fonctionné.
Oui, tout à fait, oui. Et c'est vrai que c'était des beaux rassemblements qui avaient vocation à rassembler les réalités du diocèse, les familles, les acteurs de la pastorale, les prêtres. Et généralement, on a quand même eu un bon succès, même si le mot n'est pas juste. C'était des événements qui étaient un peu phares pour essayer de manifester la communion dans notre diocèse et peut-être aussi manifester ses vitalités, et en particulier en termes d'élan missionnaire.
Il y a eu aussi le groupe des prêtres de Mourenx. Je pense qu'on ne peut pas l'occulter. Vous en avez ensuite, vous êtes ressaisi de cette question avec le conseil presbytéral. Comment vous avez vécu de l'intérieur? Ça ne doit pas être facile d'avoir une opposition quand on est évêque de ses propres prêtres.
Oui, surtout quand l'opposition ne s'est pas tout de suite déclarée. Voilà. C'est vrai que ce qui était le plus pénible dans cette affaire, c'est pas l'opposition, parce que je pense que des désaccords sont normaux, mais c'est le fait que ce groupe, finalement, se soit un peu séparé, d'une certaine manière, du presbytérium en son entier, et de l'évêque, pour préparer une action, d'une certaine manière, plutôt en sous-main. Alors ensuite, ça a éclaté un peu malgré eux. Et puis finalement, ça a permis, en effet, en crevant l'abcès, des rencontres, un dialogue, moi-même d'en prendre acte et d'assumer ma propre responsabilité sur la naissance et de ce groupe. Je me suis aussi accordé que c'était pas tout le presbytérium, que c'est pas tout le diocèse, même si évidemment nous avons ici une caisse de résonance qui aide un peu à maximaliser les choses à travers les médias locaux.
Nous venons d'évoquer, Mgr Hayet, les incompréhensions ou les tensions qui ont pu exister au cours des 10 ans d'épiscopat. Alors si c'était à refaire en quelque sorte, ou rétrospectivement, y a-t-il des décisions que vous regrettez, ou du moins des choses que vous aborderiez différemment, si c'était à refaire?
Alors peut-être que je ne me suis pas suffisamment accordé, je l'avais dit, je pense, dans l'homélie de la messe chrismale en 2017, je ne me suis pas suffisamment accordé je n'avais pas été toujours assez attentif à tous les prêtres du diocèse, et de manière assez forte, qui ne permettait peut-être pas à tous les prêtres d'exprimer suffisamment ce qu'ils ressentaient par rapport à certaines décisions ou certaines évolutions du diocèse. Et je pense que la manière de mener le conseil presbytéral, qui s'est faite parfois un peu dans des affrontements et des confrontations au début, ne prenait pas suffisamment en compte l'ensemble des préoccupations du diocèse. Je crois qu'aujourd'hui, peut-être à cause ou grâce à ce groupe de Mourenx, des décisions ont été prises au niveau du conseil presbytéral, avec la création de commissions, vie et mystère des prêtres, commissions financières, qui permettent un plus grand interface entre les prêtres le maire général et l'évêque et l'épiscopé, c'est-à-dire le conseil épiscopal, à travers le conseil prioritaire précisément, qui joue davantage ce rôle d'intermédiaire et de prise en compte un peu de tout ce qui est compris, pas compris, ressenti au niveau des prêtres du diocèse.
Est-ce que vous êtes heureux dans notre diocèse ?
Très heureux. Quand je revois ce que j'ai dit au début de mon ordination sur l'union nuptiale, de type nuptial entre l'évêque et son diocèse, moi je suis très, très heureux et je n'ai
qu'un... Est-ce que vous vous sentez pas un peu à l'étroit dans ce diocèse ?
Ah, sûrement pas, non. Je n'ai qu'un désir, c'est d'y rester.
Alors, Monseigneur Hayet, c'est un secret pour personne non plus que... Il y a une période très difficile pour l'Église aujourd'hui. On pense à la question des abus sur mineurs. D'ailleurs, bon, on aurait pu en faire une émission. Vous revenez de l'Assemblée des évêques à Lourdes. Cette question a été largement abordée. Donc, il y a cette question, ce climat qui pèse sur l'Église. Il y a aussi une forme de division dans l'Église aujourd'hui par rapport au pontificat du pape François. C'est un secret pour personne non plus. Comment vous voyez, comment vous sentez, vous, cette période pour l'Église et comment vous voyez l'avenir à la fois pour l'Église universelle et puis dans notre diocèse?
Je pense que je comprends cette période comme une période de purification nécessaire. Vous voyez, je dirais, c'est vrai qu'on pourrait être peiné de voir que l'Église est toujours dans le collimateur de la société et des médias à propos de ces abus sexuels sur mineurs qui sont forcément plus graves quand il s'agit de personnes consacrées et qu'il s'agit de prêtres, bien entendu. Hein. Mais en même temps, c'est beaucoup plus infime statistiquement que dans bien d'autres institutions qui ne sont pas du tout dans le collimateur des médias. Et on a même l'impression que ce qu'entreprend l'Église depuis 2000, qui est sans cesse nié par l'opinion publique, et n'est pas suffisamment compris, alors que les autres institutions ne le font pas et pourraient nous envier tout ce que nous faisons pour faire le ménage dans ce domaine, pour les campagnes de prévention, d'accompagnement des victimes, d'amendement des coupables, à travers une vraie collaboration avec les autorités judiciaires. On vient même d'ajouter la mise en place d'une commission indépendante de d'expertise sur les abus sexuels dans l'Église depuis 1950. On est prêt même à dédommager par un geste, en tout cas, concret, qui exprime la compassion de l'Église vis-à-vis des victimes qui pourraient le demander. Vous voyez, mais en même temps, c'est une grande purification. Et ces conflits qu'il peut y avoir aussi au sein de l'Église, autour de la personnalité du pape François, moi je suis un fils de l'Église de toute façon, hein, donc je suis en communion avec le pape de manière absolument, sans appel. Mais je pense que c'est une purification. D'ailleurs, le pape, dans sa lettre au peuple de Dieu, nous fait comprendre que la fine pointe de ce qu'il nous propose pour... face à ces problèmes, qui est un problème majeur sans doute, hein, c'est d'approfondir le mystère de l'Église comme corps du Christ. Nous sommes membres les uns des autres. Quand il fustige le cléricalisme, j'essaie de comprendre. Et je pense que ça veut dire qu'il y a un cléricalisme des prêtres comme des laïcs qui consisterait à s'enfermer dans ses prérogatives, ou son élection, ou son autorité ou son pouvoir, mais ce n'est pas seulement vrai des prêtres, ça peut être vrai des laïcs.
Vous ne craignez pas un nouveau schisme ?
Non, pas du tout. Non, je ne crois pas au schisme là. Je pense qu'il faut que tous, on se dise, on doit se purifier, on doit se convertir, on doit devenir des saints. Je pense que le pape nous a montré la voie lorsqu'il nous a donné cette belle exhortation apostolique. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Car le roi de Messieux est à vous. On sait que c'est l'embolisme de la béatitude des persécutés pour la justice qui est le titre de cette exhortation apostolique sur la vocation à la sainteté dans le monde actuel. Ben, il faut que nous soyons des saints. Les vrais réformateurs, ce sont les saints. Et ben, c'est la sainteté qui doit être mise en exergue, particulièrement dans l'époque que nous connaissons aujourd'hui.
Merci Monseigneur Hayet. Je rappelle à tous les auditeurs de Radio La Pourdie qu'une messe d'action de grâce...
Et de Radio Présence.
Et de Radio Présence, bien sûr. Qu'une messe d'action de grâce pour les 10 ans, vos 10 ans d'épiscopat, sera célébrée à la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne le dimanche 2 décembre, c'est-à-dire le premier dimanche de l'Avent, à 16h, et tous les fidèles, bien sûr, tous les diocésains du Pays Basque comme du Béarn d'ailleurs, y sont bien sûr invités.
Voilà, ce sera une messe qui sera d'ailleurs retransmise sur nos ondes des deux radios, Radio Présence et Radio La Pourdie. Un dernier mot, Monseigneur Hayet, peut-être vous-même invitez vos diocésains à venir le 2 décembre à Bayonne.
Ben oui, je serai très heureux de pouvoir vivre ce temps d'action de grâce et d'espérance toujours, parce qu'on est toujours dans la perspective de l'avenir, avec le plus de diocésains possible que j'ai rencontré tant de fois. Et voilà, ce sera une manière de marquer mon action de grâce, en tout cas pour ce qu'est ce diocèse qui m'a été confié par le Saint-Père.
Merci, Monseigneur Hayet.